Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, tournons notre regard vers la troisième étoile du triangle d'été. Regardons Altaïr, l'étoile brillante de la constellation de l'Aigle. Alors, j'avais hâte de vous parler de Altaïr car c'est une très belle histoire qui est associée au Japon. Altaïr, c'est donc une des étoiles du grand triangle de l'été. Trois étoiles très brillantes qui sont présentes pendant les nuits d'été, Véga, Deneb et Altaïr donc, respectivement des constellations de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. En début de soirée, Altaïr est à la pointe du triangle la plus proche de l'horizon. Le nom Altaïr vient de l'arabe Al-Nazar Altaïr, qui veut dire « l'aigle en vol ». Pour repérer le reste de l'aigle, commençons par sa tête, tout proche d'Altaïr. Vous verrez Tarazed et Al-Shaïn qui forment avec Altaïr la tête de l'aigle. Et puis en descendant vers l'horizon, en suivant la ligne de la tête, vous tomberez sur un bout d'aile, Theta Aquilae, aussi appelé Tsinfu, qui en mandarin signifie le radeau du paradis. Repérez ensuite Delta, l'étoile du milieu de l'aigle, qui est à une distance d'environ 5 doigts d'Altaïr vers le sud-ouest. Et puis, à partir de ce centre, vous trouverez la deuxième aile, opposée à la première. L'aigle est un peu comme le cygne posé sur la voie lactée, comme s'ils volaient l'un vers l'autre. Dans la mythologie grecque, le titan Prométhée avait été puni par Zeus, maître de l'Olympe et de l'univers, pour avoir donné le feu aux hommes. Pour ce faire, le titan avait été attaché à un rocher dans le Caucase, et tous les jours, l'aigle de Zeus dévorait son foie, qui repoussait la nuit, une fois l'aigle revenu auprès de son maître sur le mont de l'Olympe. Or, Prométhée était un savant qui connaissait de multiples secrets concernant les dieux. Un jour, il reçut la visite d'Héraclès, le fils de Zeus, son bourreau. Celui-ci cherchait en vain l'introuvable jardin des Hespérides afin de cueillir sur son pommier 3 pommes d'or. Ça, c'était le but de son 11e travail, car vous avez bien sûr reconnu que Héraclès est le nom grec de Hercule. Or, seul Prométhée connaissait le lieu précis du jardin secret. Généreux et amoureux des humains, le titan accepta de renseigner Héraclès. Celui-ci en fut très touché, et devant tant de générosité, il passa la nuit avec le titan. Au lever du soleil, lorsque l'aigle de Zeus revint pour manger le foie de Prométhée, Héraclès banda son arc et le transperça d'une flèche empoisonnée. C'est ainsi que s'achève le supplice du titan Prométhée. Zeus, qui cherchait un moyen de devenir l'ami du titan, accepta de perdre son oiseau favori et décida que son aigle et la flèche se trouveraient dans le ciel sous forme de deux nouvelles constellations très proches l'une de l'autre. Mais c'est dans la mythologie japonaise que l'on rencontre la plus belle des histoires. C'est la légende de Tsinu Enulang. Il y a très très longtemps, il y avait un petit vacher, très pauvre, appelé Nulang. Il avait un bœuf qui savait parler. Alors ça c'est plutôt cool, surtout pour un pauvre vacher. Un jour, son bœuf lui dit de se rendre à la rivière sacrée où de jeunes déesses viendraient se baigner. L'une d'elles, dit-il, particulièrement belle, s'appelle Tsinu. C'est la tisseuse céleste. Vole ses vêtements et elle deviendra ta femme. Alors c'est une technique de drague un petit peu discutable, mais peut-être que chez les bœufs qui parlent, c'est quelque chose qui marche. Toujours est-il que Nulang se rendit à la rivière sacrée et vola les vêtements de Tsinu. La pauvre Tsinu ne put s'enfuir comme les autres déesses et se retrouvera seule dans la rivière, sans vêtements célestes, ne pouvant pas remonter au ciel. Nulang lui ramena des vêtements terrestres et tomba amoureux d'elle à l'instant même où il l'aperçut. Ils se regardèrent et Tsinu lui déclara qu'elle serait sa femme. Nulang et Tsinu se marièrent et eurent 2 enfants, des jumeaux. Ils vécurent heureux quelques années. Jusqu'à ce qu'un jour, la mère de Tsinu, la reine des déesses, se rendit compte que sa fille était partie dans le monde des hommes et avait épousé un mortel. Elle fut furieuse et força sa fille à revenir au paradis des dieux. La mère avait dû être fort occupée par son travail de reine des déesses pour ne pas se rendre compte de l'absence de sa fille pendant plusieurs années. Enfin bref. Le pauvre Nulang se retrouve donc seul avec ses enfants. Il essaye tant bien que mal de retrouver sa douce, mais il ne put traverser la rivière qui séparait le monde des dieux de celui des mortels. Tous les trois étaient très tristes et pleurèrent amèrement. La reine des déesses fut attendrie par leurs larmes et décida qu'elle permettrait à Tsinu et à Nulang de se retrouver une fois par an, le 7e jour du 7e mois de l'année du calendrier lunaire. Ce jour-là, c'est un peu comme la Saint-Valentin. En Chine, ce jour s'appelle le Kixi, et au Japon, ça s'appelle Tanabata. Pour les aider à traverser cette rivière, toutes les pies volent jusqu'à eux et forment un pont avec leurs ailes. C'est pour cette raison qu'on ne voit aucun oiseau voler dans le ciel ce soir-là. Nulang et Tsinu se transformèrent en étoiles, Altaïr et Véga. Les jumeaux aussi sont devenus des étoiles bêta et gamma de l'aigle, appelées Alchine et Tara Z. Et puis une fois par an, un pont se forme au-dessus de la Voie lactée pour permettre aux amoureux de se retrouver. Quelle belle histoire qui nous parle d'Altaïr, une étoile blanche de type spectral A75N3. Alors, c'est une classe de luminosité 5, ça veut dire qu'il s'agit d'une étoile dans sa séquence principale. Le suffixe N derrière sa classe de luminosité indique que son spectre présente des raies nébuleuses en raison de sa rotation rapide. Altaïr est environ deux fois plus grande que le Soleil et 1,86 fois plus massive. Et elle est près de 11 fois plus lumineuse que lui. En fait, ce qui la caractérise le plus, Altaïr, c'est sa rotation extrêmement rapide. Il ne lui faut que 7h46 minutes pour effectuer une rotation. Là où le Soleil, qui rappelons-le, est deux fois plus petit, met un peu plus de 25 jours. Altaïr tourne donc à son équateur à une vitesse de 314 km par seconde. En conséquence, Altaïr est oblongue, c'est-à-dire qu'elle est aplatie au pôle et renflée à l'équateur. C'est sa vitesse qui ramène de la masse au niveau de l'équateur. Son diamètre équatorial fait 22% de plus que son diamètre polaire. En 2007, des images de la surface d'Altaïr dans le domaine du visible ont été réalisées depuis l'observatoire du mont Wilson, en Californie, grâce aux techniques de l'interférométrie, qui mettent en œuvre 4 des 6 télescopes du site. L'interférométrie, ça repose sur l'idée de combiner la lumière provenant de plusieurs télescopes afin de simuler un seul télescope, mais beaucoup plus grand. En pratique, ça permet de résoudre des détails beaucoup plus fins que ce qui serait possible avec un seul télescope de taille standard. Le mont Wilson, en Californie, utilise plusieurs télescopes individuels qui captent la lumière d'une étoile ou d'un autre objet astronomique. Ces télescopes sont généralement montés sur des bases mobiles afin de pouvoir s'orienter très précisément vers le même objet. La lumière collectée par chaque télescope est ensuite acheminée vers un point de convergence où elle est combinée. Ça se fait en général à l'aide de miroirs et de fibres optiques. L'idée, c'est de superposer les ondes lumineuses captées par chaque télescope et de construire ainsi une image contenant des informations sur les détails fins de l'objet observé. Des algorithmes sophistiqués de traitement d'images sont utilisés pour reconstruire l'image haute résolution de l'objet astronomique à partir de données d'interférence. Les images obtenues montrent une étoile de couleur bleutée, fortement oblongue, ce qui confirme les observations précédentes sur sa vitesse de rotation. Une modélisation en deux dimensions, présentée dans une nouvelle étude publiée en janvier 2020, précise ses caractéristiques physiques. Son âge est estimé à 100 millions d'années, soit beaucoup plus jeune que les âges donnés précédemment. 100 millions d'années, c'est vraiment pas grand-chose pour une étoile. Vous n'aurez aucune difficulté à observer Altaïr, même en ville, tant elle est brillante. Mais pour d'autres étoiles un peu plus timides, le choix du lieu est primordial. Alors, quelles sont les caractéristiques qui font un bon lieu d'observation ? D'abord, pour observer un maximum d'étoiles, il est important de s'éloigner des lumières de la ville. En effet, la pollution lumineuse des lampadaires, des bâtiments, des enseignes lumineuses peuvent faire disparaître de notre vue de nombreuses étoiles. Si vous le pouvez, tenez-vous à au moins 10 km des centres-villes, voire pour les très grosses villes, éloignez-vous de au moins 30 km. Vous pouvez même vous rendre dans des lieux réputés pour l'obscurité de leur nuit, par exemple dans le triangle noir du Quercy, au cœur du parc d'Écosse. 32 agglomérations qui éteignent toute leur lumière après minuit. La lumière des astres parvient alors à nos yeux émerveillés. 3 villages disposent même de terrains aménagés pour accueillir les mordus d'étoiles. Limogne en Quercy, Rayac et Carlucet. Certains hébergements alentours mettent même du matériel d'observation à disposition des hôtes. Il est important ensuite d'avoir un horizon bien dégagé pour pouvoir observer les étoiles les plus basses. En effet, une bordure de forêt, une montagne pourrait vous masquer jusqu'à une trentaine de degrés du ciel. Essayez de trouver une zone plate, sans bâtiments, sans trop d'arbres, ou alors le sommet d'une colline. Évitez aussi d'observer les étoiles un soir de pleine lune, car ce phare de la nuit peut être pire que les lumières de la ville. Repérez donc les nuits idéales sur un calendrier lunaire. Sachez aussi que la lune dans son premier quartier se couche en milieu de nuit. Elle gênera donc les observations en début de nuit, mais pas au petit matin. Alors que dans son dernier quartier, c'est le contraire, elle se lève au milieu de la nuit. Donc là, vous serez tranquille le soir, mais elle vous gênera le matin. Et plus vous monterez en altitude, plus l'atmosphère sera pure et donc facilitera vos observations. C'est la raison pour laquelle les observatoires sont souvent situés en altitude, comme le très célèbre observatoire du Pic du Midi dans notre région. C'est l'un des 12 sites mondiaux classés réserve internationale de ciel étoilé. Il y en a deux en France, le Pic du Midi et le Parc des Cévennes. Sachez que des séjours y sont proposés où vous pourrez découvrir les instruments scientifiques de l'observatoire, profiter du planétarium et évidemment pratiquer l'observation grâce à l'association La Ferme des Étoiles, qui est située dans le Gers et qui assure des animations régulières à l'observatoire. il est aussi important d'être confortable si vous voulez faire une observation longue et voir les étoiles se lever. Pensez donc à vous couvrir, même en été, car l'observation des étoiles, c'est une activité relativement statique et vous risqueriez de ressentir plus le froid. Pensez aussi à pouvoir vous installer correctement, soit avec une chaise inclinable, soit avec une couverture pour vous allonger et pouvoir regarder le ciel les yeux dans les yeux. Et oui, il faut prendre son temps car vos yeux doivent s'habituer à la nuit. Il vous faudra une vingtaine de minutes pour que votre vision dans l'obscurité soit vraiment améliorée. Le maximum de sensibilité ne sera atteint qu'après environ 45 minutes dans l'obscurité ininterrompue. Ne regardez donc pas votre téléphone pendant que vous attendez. Son écran lumineux ruinerait votre vision nocturne. Si vous avez besoin de lumière, utilisez une lampe à vision nocturne, une lumière rouge. Une fois que vos yeux se sont habitués au noir, vous serez étonné du nombre d'étoiles que vous pouvez voir de plus qu'à votre arrivée. Dernier conseil, pensez aussi à avoir sous la main des cartes du ciel. Vous pourrez facilement en trouver sur Internet, qui pourront représenter heure par heure le ciel à l'endroit où vous observez. Ainsi, vous pourrez facilement repérer les constellations, chercher des étoiles un peu plus discrètes. Moi, je me souviens avoir eu, quand j'étais jeune, un livre qui détaillait le ciel à différents moments de l'année avec des cartes phosphorescentes, qui restaient bien lisibles, même dans le noir. Ça, c'était vraiment pratique pour se repérer, sans pour autant avoir besoin d'allumer sa lampe de poche. De nombreuses applications sur téléphone existent pour aider les astronomes amateurs. La plus simple, il me semble, c'est SkyMap, qui utilise le GPS et le gyroscope de votre téléphone. Elle vous montrera les noms des constellations, les étoiles, les planètes et tous les objets stellaires que vous pointerez avec votre téléphone. Ultra pratique quand on se dit « Tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Il y a aussi la très célèbre application Stellarium, qui, en plus des fonctionnalités de SkyMap, vous permet de rechercher des objets, des planètes, des étoiles et aussi l'ISS, par exemple. Des applications un peu plus spécifiques, comme Jupiter Moon ou Planète Droid, vous donneront toutes les dates importantes qui se rapportent à l'observation des planètes du système solaire. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher des clubs d'astronomie près de chez vous ou de votre lieu de vacances. L'été, c'est souvent l'occasion pour ces clubs de proposer des soirées d'observation et pour vous, l'occasion d'apprendre des tas de choses sur les étoiles grâce à des passionnés qui vous feront partager leurs connaissances et même leur matériel. Une occasion unique de découvrir l'émotion de l'observation avec un bon appareil. Par exemple, pour voir les anneaux de Saturne ou encore vos premières nébuleuses. N'hésitez pas à vous renseigner car en général, autour du 10 août, il y a souvent des soirées d'astronomie proposées à l'occasion de la Nuit des Étoiles.